carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir un jeune musicien, violoncelliste, en la personne d'Adrien Frassombet. Adrien Frassombet, bonjour.
Bonjour.
Adrien Frassombet, la musique entre dans votre vie très jeune, dès l'âge de 4 ans. Expliquez-nous ce parcours.
Alors, c'est tout à fait particulier, c'est vrai, parce que je tiens à spécifier, je ne suis pas issu d'une famille de musiciens, ce qui est assez étonnant dans ce métier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un petit garçon de 4 ans décide de faire du violoncelle? Eh ben, moi, j'ai commencé, il y avait un programme musical dans mon village, Olioul, à côté de Toulon, qui s'appelait les Bébés Solfèges. Et j'ai commencé comme ça à découvrir la musique à l'âge de 3 ans et demi. Puis, ça a été une invitation à l'opéra, qui m'a donné envie, comme ça, fasciné à l'âge de 3 ans et demi. Mon premier opéra, c'était Thaïs de Massenet. Et j'étais au paradis, tout en haut de cet opéra de Toulon. J'ai écouté ce premier opéra, j'étais complètement fasciné par les sons que j'entendais. Sans le savoir, comme ça, ça m'a marqué. Et la troisième chose, ça a été des journées portes ouvertes au conservatoire de Toulon, qui était donc à côté de mon petit village, Olioul. Là, j'ai écouté le violoncelle, peut-être probablement Bach, et ça m'a complètement étonné. Et le professeur m'a remarqué, a dit « Mais ce petit garçon-là, parce que vous imaginez, il y avait la queue pour le piano, pour les classes de violon, mais en violoncelle, il n'y avait personne. » Et il a vu ce petit garçon écouter comme ça, tout à fait attentivement. Et il s'est dit, ben, ça serait peut-être bien qu'il fasse du violoncelle. C'est ainsi qu'on est allé avec mes parents chez un petit luthier prendre le tout petit violoncelle, un huitième, sur lequel j'ai fait mes premières notes de musique. J'avais 4 ans.
Adrien Frassombet, les auditeurs de Canal Académie auront le plaisir de vous écouter tout au long de cette émission dans différentes interprétations, des interprétations d'œuvres signées Bach ou encore des compositeurs modernes comme Vallée, Cassado. Il y a un instant, vous évoquiez vos souvenirs de jeunes mélomanes, précisément vos émotions musicales à l'écoute de Thaïs, de Jules Massenet.
Ce sont des souvenirs qui sont encore dans ma tête parce qu'évidemment, quand je retourne dans ma ville, je retourne à l'opéra, je vois... Donc, on était tout en haut, comme ça, au paradis. On appelle ça paradis parce qu'en haut, il y a des fresques qui représentent le paradis, en fait. Et donc, oui, le souvenir me paraît présent. Mais après, je pense que ce sont des choses qui marquent, probablement.
Ce sont des impressions, de l'ordre des impressions.
Oui, ce sont des impressions. Sensations. Ça reste un souvenir. Et quand je joue du violoncelle, j'essaie de retrouver ce côté lyrique, finalement, qui m'avait marqué quand j'étais petit.
Alors, donc, vos parents vous mettent en relation avec ce petit violoncelle. Comment ça se passe ensuite, alors ?
Voilà, ben alors ensuite, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une enfance. C'est-à-dire que le violoncelle, j'ai commencé à 4 ans, mais c'était un confident, c'était un ami. C'est-à-dire quand ça allait pas, pour moi, le violoncelle, c'était ma récréation. C'est-à-dire que dans le monde, en fait, je voyais des gens autour de moi, je parlais, tout ça, mais je me sentais bien avec le violoncelle. Je me sentais libre, en fait, finalement, parce que personne ne m'imposait rien. Les professeurs me disaient, mais Adrien, tu fais vraiment n'importe quoi, parce que j'avais aucune donnée, vraiment, de solfège, mais je m'amusais avec l'instrument. J'avais ce qu'on appelle, alors, ce qu'on a repéré assez tôt, l'oreille absolue, c'est-à-dire que on entend un son et puis on peut y mettre une note dessus, donc... Quand j'entendais les opéras, qui me plaisaient énormément, c'était le Barbier de Séville, c'était Don Giovanni, et ben j'essayais de reproduire les petits airs, comme ça je faisais évidemment totalement n'importe quoi, mais je me suis amusé. Et petit à petit, le violoncelle est devenu un ami, un confident. Quand j'étais puni, j'étais puni de violoncelle, curieusement, alors que normalement c'est censé être quelque chose de sérieux, moi je n'ai pas vu un apprentissage difficile. Et finalement, c'est peut-être pour ça aussi que je prends tellement de plaisir à jouer, c'est que j'ai toujours été dans le plaisir avec l'instrument, plaisir de travailler très longtemps, mais par ma propre volonté, jamais forcé.
Alors, comment l'instrument a-t-il cohabité avec les études ?
Moi, mes parents sont enseignants, justement. Alors, mon père, prof de maths, ma mère, institutrice.
Difficile.
Donc, vous voyez, c'est vrai qu'en primaire, je faisais très attention à l'école, je faisais attention à avoir des bonnes notes... Je faisais bien attention à tout ça. Puis c'est vrai qu'en avançant, je travaillais de plus en plus la musique. Alors, évidemment, l'école, à partir de la sixième, ça devenait trop dur pour vraiment assurer les deux choses. Et puis, il y a eu cet exode de mon sud natal, du soleil comme ça, à Paris, hein, magnifique ville hein, de culture. Mais ça fait un choc pour un petit provençal comme moi, on va dire, même pas provincial, provençal, qui arrive à Paris avec son accent et qui découvre un petit peu tout ça. Et la rigueur des premiers professeurs que j'ai eus, notamment au CNR, rue de Madrid, c'était déjà la compétition et des choses vraiment plus difficiles. Et là, je me suis dit, je vais travailler beaucoup plus pour essayer d'atteindre un petit peu mes objectifs qui ont toujours été finalement de pouvoir m'exprimer sur une scène avec le violoncelle. C'était ça que je voulais.
Thank you.
Arrivé à Paris, ensuite, vous travaillez avec de grands maîtres.
Mm-hmm.
Alors, Dimitri Markevitch, par exemple, en Suisse. Alors, on voit la Suisse. Aldo Parizo à la Juilliard School. Dites-moi, c'est un parcours international, là.
Aldo Parizo, je l'ai rencontré à Beauvais. Il y avait un stage de violoncelle, comme ça, et je l'ai rencontré, je lui ai joué le concerto de Shostakovich, et il m'a dit, Adrien, ça serait bien que tu viennes travailler avec moi à Banff. Donc j'ai travaillé avec Aldo Parizo, qui est de la Juilliard School, mais à Banff, au Canada, pendant 3 mois. Un stage assez intensif, comme ça, où il a pu un petit peu me faire découvrir les secrets de cette école américaine, justement très connectée avec la scène. Mais après, évidemment, on essaye de pas copier. On prend les influences, comme ça, des grands maîtres, mais j'ai aussi beaucoup appris finalement du contact avec le public.
Alors, ces grands maîtres, quels sont-ils ?
J'ai travaillé donc avec Aldo Parizo, je vous disais, Dimitri Markevitch, qui est quelqu'un de tout à fait particulier. C'était le frère du chef d'orchestre, Igor Markevitch. Et il avait la particularité, je dis l'avait parce qu'il est décédé il y a un certain temps, j'ai eu la chance de le connaître de son vivant. Il avait une bibliothèque avec toutes les œuvres pour violoncelle seule écrites depuis vraiment l'histoire comme ça du violoncelle. Il avait tout. Une bibliothèque gigantesque dans sa maison en Suisse à Montreux. Et j'ai pu le rencontrer, discuter de Bach. J'étais très très jeune, hein, j'avais 15 ans. Et c'était de très beaux moments de partage avec lui.
On note aussi Michel Canca et Jean Moulière.
Voilà, Jean Moulière qui a été mon professeur de musique de chambre au CNSM. Quelqu'un de très passionné qui le transmettait à ses élèves. Et ça m'a permis aussi de faire des rencontres en musique de chambre de musiciens avec qui je joue encore. J'ai rejoué d'ailleurs assez récemment, il y a 2 ans avec lui, le triple concerto de Beethoven. Donc là, il n'y avait plus le rapport maître-élève, on était vraiment des collègues et c'était assez intéressant de se retrouver dans ce cas-là. On apprend aussi beaucoup en étant collègue finalement avec ces musiciens. Et je veux aussi citer un musicien qui n'est pas violoncelliste mais qui m'a énormément appris et qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, c'est Yves Henry qui est le directeur du festival Chopin à Nohant. Entre autres, c'est un homme extrêmement cultivé qui m'a appris plein de choses finalement, beaucoup sur la musique et sur comment on fait un concert, comment on arrive à gérer ça. Il m'a repéré très tôt, à 14 ans, et on continue à faire des concerts et des disques ensemble. Donc la fidélité de cette personne dans ma carrière est finalement assez rare dans ce métier, donc je voulais le souligner.
Oui, donc parce qu'il y a des professeurs qui donnent et qui transmettent et d'autres qui donnent moins et qui transmettent moins.
Voilà, puis il y a 2 aspects, on peut dire, c'est-à-dire il va y avoir les professeurs qui vont vous apprendre la technique, c'est-à-dire ils vont vous apprendre comment jouer de votre instrument, comment on arrive à jouer d'un instrument, et ça c'est très important. Et là c'est pas dans une démarche de carrière ou de se placer dans ce métier qui est très difficile, où il y a beaucoup de concurrence. Hein. Donc ces professeurs vous apprennent comment la partition est faite, je vais citer notamment Xavier Gagnepin, qui est quelqu'un de très très précis, Jérôme Pernaud aussi, sont des gens très précis qui apprennent vraiment vraiment comment une partition fonctionne. Et puis après, finalement on fait des rencontres qui aide aussi à développer une carrière. Et ces 2 aspects sont importants, parce que quand on a un peu développé sa technique, ben il faut aussi développer sa carrière.
Comment interviennent les concours internationaux dans le développement d'une jeune carrière comme la vôtre, Adrien Frasson-Bey ?
À partir de 16-17 ans, je me suis posé cette question. En allant dans des musées, en regardant des tableaux, en lisant des livres, en voyant des sculptures, en allant dans des grands restaurants, autre de mes passions, la gastronomie, je me suis dit, peut-on classifier l'art ? Est-ce qu'on peut vraiment dire premier, deuxième, troisième, à un niveau où des jeunes ont travaillé 10-12 heures dans un concours international? Ne faut-il pas, pour cela, uniformiser un petit peu la musique? Parce que les jurys, finalement, doivent se mettre d'accord sur quelqu'un à qui on va donner le premier prix du concours. Et forcément, est-ce que l'originalité est mise en avant dans ce type de démarche? Je n'en suis pas sûr. Donc, j'ai fait quelques concours dans ma vie. Il y en a, j'ai pu réussir notamment en Corée. Ça a été une expérience assez étonnante. Mais je me suis très vite senti étranger à ce monde de performance sportive, on va dire, ou qui nous pousse à apprendre le plus de choses par cœur, à faire 5 concertos, à partir comme ça dans des délires qui me paraissent assez éloignés finalement du but premier qui est de transmettre une émotion au public. Alors évidemment, on va dire, il faut des concours pour faire carrière. Je pense qu'en développant des projets nouveaux, en essayant d'intéresser des producteurs, en développant tout ça, on peut aussi passer un petit peu en dehors de cette case-là, et d'illustres aînés l'ont prouvé. C'est pour cela que j'ai pas vraiment été dans cette démarche de devenir ce qu'on appelle une bête à concours. Voilà.
Adrien Frassombé, vous remportez le royaume de la musique à Radio France.
Oui, j'étais tout petit là.
Voilà, on vous décerne le prix d'honneur à l'âge de 14 ans.
Ça m'a permis notamment de jouer le concerto d'Elgar avec orchestre. C'était surtout ça qui était intéressant, de se retrouver sur cette grande scène de Radio France. Tout petit, j'avais 14 ans comme ça, et de jouer ce concerto avec orchestre, c'était devant 1000 personnes. C'était tout
impressionnant.
Très impressionnant, ouais, très formateur.
Vous remportez le prix de la Fondation Xifra.
Voilà, alors ça, je pense que je peux aussi dire que c'est pas vraiment un concours, la Fondation Xifra. C'est une sorte de déclencheur comme ça, qui nous donne la possibilité d'avoir les premières scènes qu'on fait et de découvrir justement des partenaires aussi, parce que les gens du jury nous suivent pendant longtemps. Et puis, ils prennent pas mal de lauréats, donc voilà, c'est pas tout à fait comme un concours où c'est 1, 2, 3, quoi, voilà.
Le prix du Forum International, cette fois en Normandie. Mm-hmm. Vous vous faites connaître à l'étranger aussi, notamment au Festival International du printemps en Corée, dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous recevez la médaille d'or et en 2003, vous obtenez à Paris le prix ProMusica, qui est accordé par des producteurs de concerts. Le magazine Classica Répertoire vous a décerné une découverte Classica. C'était en juillet-août 2005.
Absolument.
Et donc, a suivi un CD découverte édité en partenariat avec France Musique. Alors, les concerts arrivent quand par rapport à ces concours internationaux ?
Ils sont arrivés un petit peu avant. Parce que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'était être sur scène. Et donc, j'avais besoin absolument de jouer. C'était très, très important pour moi. Donc, j'ai commencé par des toutes petites scènes à Paris, comme ça, avec des producteurs de ci, de là, en commençant à faire mes armes, on va dire. Et puis, petit à petit, on fait des rencontres, on noue des relations. Et puis, grâce à la Fondation Xifra, qui m'a ouvert mes premières scènes, on va dire, ça a commencé à prendre son envol, comme ça. La découverte Classica a été un déclencheur aussi très important qui m'a permis de faire le festival du Cap d'Antibes avec orchestre aussi en jouant le concerto d'Elgar.
La musique, un domaine d'échange, de partage, de rencontre.
Oui. Oui, je crois beaucoup en fait dans les rencontres qu'on peut faire entre musiciens, mais aussi avec le public et notamment avec des gens qui avait des a priori sur le violoncelle ou la musique dite classique en général. Moi, je n'aime pas trop dire musique classique.
Que dites-vous alors ?
Je préfère le terme de musique instrumentale en fait, parce que je crois qu'on peut faire de la musique avec tous les instruments possibles, que ça soit une platine de DJ, une guitare électrique ou un violoncelle, finalement, c'est le même combat, celui de l'émotion. Faire passer de l'émotion au public. Et ça, pour moi, ça n'est pas classique. Le classicisme est une période définie de l'histoire de l'art. Et je pense que ça a été mis à un moment, on a appelé ça musique classique parce que les disques se vendaient énormément et que ça faisait énormément vendre. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à dire faisons de la musique tout simplement et arrêtons avec les frontières entre les genres, quoi. Voilà.
Pierre Cardin, c'est une Autre rencontre, racontez-nous.
Très belle rencontre, tout à fait. Il se trouve qu'un soir, j'ai été invité à jouer à la résidence Maxims, qui est une des propriétés de Pierre Cardin. Et il était là, il m'a écouté jouer une sonate de Shostakovich notamment, et il revenait de Russie, et il m'a dit, ça m'intéresserait beaucoup qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Il a créé un spectacle musical qui s'appelle « Les Trois Éléments », que nous avons tourné dans plein d'endroits, notamment son magnifique festival à Lacoste et à Théoule-sur-Mer. C'était vraiment des moments absolument magiques de ma vie. J'ai même eu l'occasion de jouer à l'Espace Pierre Cardin à Paris, voilà, et de pouvoir discuter avec lui de la vie, de sa conception de l'art, de sa conception d'une carrière. On peut dire qu'il en a été un formidable exemple, et donc voilà, pouvoir échanger comme ça avec quelqu'un qui a vraiment côtoyé les très très grands de ce monde a été pour moi une grande joie et un grand honneur.
Une période donc riche d'expériences.
Absolument.
Alors le spectacle que vous avez monté avec l'aide et le soutien de l'académicien Pierre Cardin était organisé comment ? Est-ce que c'est lui qui avait choisi les pièces que vous présentiez ?
Alors, la musique était choisie en collaboration avec lui, avec les gens de l'espace, avec plusieurs personnes. Et puis, il avait choisi de venir, on va dire, avec une clarinettiste, Michela, et Rodrigo Basicati, un pianiste qui est aussi sculpteur. Voilà, nous avons travaillé 4 ans sur ce projet. C'était un projet qu'il avait créé, qu'il a amélioré avec des lumières et tout ça. Parce qu'il avait très bien compris l'idée que j'avais de vouloir porter le violoncelle à une clientèle, on va dire, plus large que celle dont on a l'habitude, c'est-à-dire des gens qui ne seraient pas allés dans un concert classique, qui auraient eu peur de ça. Et souvent, les gens ont peur parce qu'ils se disent « ça ne s'adresse pas à nous, ça n'est pas pour nous ». Et moi, je veux vraiment insister sur le fait que la musique instrumentale, de par sa sonorité, de par ce côté communication avec les gens, est très contemporaine et très vivante dans notre époque et peut être diffusée notamment dans des lycées. Ce qui m'est arrivé d'aller jouer dans des lycées pour des jeunes qui, à l'origine, n'avaient pas du tout envie d'écouter du violoncelle. Et ça, ce public, je l'adore.
Sentir, comprendre, partager, divertir, c'est l'une de vos maximes, Adrien Frassombay. Et la musique, si je vous suis bien, si je vous entends bien, fait partie de la vie, est indissociable de l'accompagnement de nos vies, c'est ça ?
Je pense. Alors, c'est vrai que je veux pas être un ayatollah à dire « il faut que ce soit comme ça ». Moi, je pense que chacun a sa démarche et fait en sorte que sa vie aille pour le mieux. Philosophiquement, la musique est importante dans la vie parce qu'on a besoin des sons. On a besoin du rythme, on a besoin des sons, on a besoin de ces émotions. Le violoncelle est un instrument qui permet de livrer des sons très profonds et qui peuvent être pas seulement sombres, comme on l'imagine souvent, mais aussi très lumineux, très heureux, refléter des moments heureux de la vie. Finalement, un interprète, qu'est-ce qu'il essaye de faire face à une partition de musique ? En tout cas, ma démarche est celle-là, c'est d'être comme un acteur. Alors, je reçois un scénario avec des notes, qu'elle soit du 15e siècle ou du 21e siècle, ma démarche va être la même. Elle va être de proposer une histoire à des gens et les emmener dans un univers, les emmener dans quelque chose, les déconnecter finalement des difficultés de leur quotidien ou les reconnecter avec ces difficultés pour qu'ils en prennent conscience et par là même qu'ils s'en libèrent. Donc pour moi, la musique et l'art ont une dimension philosophique très importante. Elle permet de nous éloigner de nos chagrins, en nous en rapprochant. Moi, par exemple, dans ma vie, quand j'étais tout petit, et même maintenant encore, dès que ça allait mal, je me mettais à jouer du violoncelle et j'exorcisais ce chagrin de manière à ce que ça aille mieux. Et finalement, ça marchait très bien. Donc, j'ai toujours continué dans cette démarche-là. Faire passer les émotions de la vie au travers de la musique. Et évidemment, la musique ne se dissocie pas de la vie. Thank you.
la conception de la musique de Pierre Cardin. Qu'est-ce qu'il a pu vous livrer comme expérience, comme chose qui lui tienne très à cœur ?
Alors, je pense que Pierre Cardin a une connaissance de l'art, en général, qui est gigantesque. C'est-à-dire, il connaît toutes les périodes de l'art. Il est artiste lui-même, dans le sens où il est sculpteur, où il crée des meubles, où il crée des maisons. Je me souviens de ce palais bulle exceptionnel. Alors, la conception de Pierre Cardin de la musique, je dirais liberté. Hein, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire, il nous a laissé libres d'exprimer nos spécificités avec cette forme de liberté. Je crois que ça se résume à ça. Liberté, et faites ce que vous êtes. C'est-à-dire, il aime les gens qui sont vrais, quoi, qui vont pas jouer un jeu pour, entre guillemets, pour s'intégrer ou pour faire carrière. Je crois que c'est très important dans la musique et dans l'art d'être vrai, quoi, de parler avec son cœur, de jouer avec son cœur, sans une démarche nécessairement, de se dire je vais faire ça pour ça, quoi, voilà. Faire attention à ne pas trop construire son concept, ce sont des mots qui sont à la mode maintenant, mais il faut être, je pense, le plus sincère possible et parler avec son cœur aux gens et les gens le ressentent. Voilà, tout simplement.
Sincérité, authenticité.
Voilà, sincérité, authenticité. Faire simple, c'est très difficile, finalement.
Pour pouvoir faire dire toutes ces choses et transmettre tout ce que vous voulez transmettre au niveau du champ émotionnel, au niveau du partage de cette chose qui est difficilement cernable, et qui s'appelle,
c'est subjectif aussi,
et qui s'appelle,
hein,
et qui s'appelle musique, mais que nous percevons tous, plus ou moins. Mais les sons, comme vous le disiez, font partie de notre vie. Donc, il faut tout de même trouver l'instrument. Alors, oui, parlez-nous de votre instrument qui est assez particulier, qui est magnifique. Parlez-nous de cet instrument.
Absolument. Alors, il se trouve que depuis tout petit, là encore, je suis un passionné de lutherie. Alors, la lutherie, c'est l'art de fabriquer des instruments de musique. Ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours fasciné. Et mon père m'achetait des livres avec ces instruments que je regardais sur la lutherie vénitienne, notamment. J'étais fasciné par Goffriller, Montagnana, tous ces gens. Je me disais, jamais je ne pourrais jouer ce type d'instrument. Parce qu'un jour, j'aurai la possibilité de tenir ça entre mes mains. Et puis, un beau jour, en surfant sur le net, vous voyez, les nouvelles technologies, j'avais entendu parler d'une fondation qui s'appelle la Fondation Maggini. Et en surfant sur le net, comme ça, je découvre Fondation Maggini. Je regarde, je vois qu'ils ont des Goffriller, des Stradivarius, ni une ni deux. Je prends mon téléphone et je les appelle. Je leur dis, écoutez, j'ai vu que vous aviez des Goffriller, des Strad. Moi, je suis un jeune violoncelliste, je démarre un peu ma carrière. Je rêverais d'en essayer. Hein. Je vous dis pas de m'en prêter un, hein, pour l'instant, c'est peut-être même pas la peine, mais faites-moi essayer. Ils ont dit, d'accord, allez, venez. Il se trouve que je jouais un violoncelle de Bernardel, qui est un joli violoncelle français. Ils ont dit, ah, ben, pour voir votre Bernardel aussi. Et alors, je prends mon Bernardel sous le bras, je prends mon train et j'arrive à cette fondation en Suisse. Une petite maison, comme ça, je rentre. Je découvre un monsieur, comme ça, l'air très solennel, qui me dit, voilà, j'ai quelques violoncelles à vous faire essayer. C'est un Testor, des instruments italiens, comme ça, bon, qui étaient très bien, mais rien d'exceptionnellement fascinant. Et le gars m'écoute jouer une heure, deux heures, trois heures. Puis à un moment, il s'absente et il revient avec une boîte ancienne en bois, comme ça. Il ouvre cette boîte, je regarde à l'intérieur et tout de suite, je reconnais un Goffriller. Je dis, c'est un Goffriller. Alors, il est étonné, il me dit, mais comment vous avez fait pour voir tout de suite que c'est un Goffriller ? J'ai dit, le vernis, la couleur, il sent tout de suite cette passion que j'ai pour les instruments de l'école de Venise. J'en avais essayé quelques-uns, alors je lui demande, est-ce que je pourrais l'essayer ? Et il me dit, bah écoutez, allez-y. Je commence à faire une note comme ça, et puis vous savez, c'est comme si vous rencontriez l'amour de votre vie, quoi. Dès la première note, c'est un flash. C'est une histoire d'amour qui se noue entre le violoncelle et moi, à tel point que tout le monde s'arrête dans la fondation, les gens s'assoient, et je me mets à jouer pendant 6 heures, 8 heures, tout le répertoire possible que j'avais, comme ça. C'était une rencontre amoureuse, je ne peux pas mieux dire, à tel point que le directeur de la fondation dit, ben écoutez, vous entendez tellement bien avec ce violoncelle, je vous le laisse pendant 3 semaines, essayez de trouver un mécène. Et alors, je téléphone à mes parents, je dis, vous devinerez jamais ce que j'ai, je viens de ramener un Goffriller. Alors, ils ne me croient pas, ils disent, c'est pas possible. Et je spécifie que c'est un instrument de 1710, quand même, qui est vraiment terriblement exceptionnel. Et donc, je reviens chez moi avec cet instrument et la chasse aux mécènes commence à arriver. J'ai la chance de rencontrer un groupe de médecins qui acceptent de me sponsoriser pour 4-5 mois. Puis, c'est le festival de Grand Montana en Suisse qui me sponsorise pour un an. Et ensuite, je rencontre mon actuel mécène, un homme merveilleux qui s'appelle Jean-Pierre Germaud. C'est la Fondation pour l'art et la recherche. Et il m'a vraiment, vraiment aidé à garder cet instrument pour une durée très longue.
Et une durée indéterminée.
Voilà, continuer ce rêve de le faire sonner sur les scènes de partout.
Alors, donc, cet instrument, est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous savez par quelle main il a transité? Est-ce que cela vous a été raconté?
Alors, c'est compliqué d'établir une véritable histoire de ces instruments-là, mais ce qu'on peut d'ores et déjà être sûr, c'est que ce sont des instruments de Venise, et qu'à Venise, à cette époque, il y avait un compositeur qui régnait en maître, c'était Vivaldi. Et donc, de là à penser que, comme on voit souvent les carnets de commandes de Goffriller, qui étaient faits pour les Pietà de l'époque, et que nombre d'œuvres de Vivaldi ont été créées dans ces Pietà, on peut très très bien imaginer que cet instrument ait servi aux créations d'œuvres de Vivaldi et de Monteverdi aussi. Donc, tout à fait émouvant de voir la naissance de la musique tonale sur ces instruments-là. Il faut aussi savoir qu'ils sont très puissants, mais que c'était pas vraiment voulu par le luthier à l'origine, puisqu'ils étaient très larges. Et on se baladait dans Venise, avec l'instrument attaché au cou, dans des déambulations comme ça, et c'était tout à fait inhabituel. Ils étaient très puissants parce qu'il fallait que ce son porte très très loin, ça faisait comme des trompes. Alors ensuite, après cette grande vague d'or de Venise, il y a eu le déclin de Venise. Hein. Et évidemment, bah, les instruments ont été un peu malmenés, ils ont été mis en pièces parfois. Et il a fallu attendre le 19e, un petit peu avant même, pour que ces instruments arrivent rue de Rome, à Paris, chez des luthiers comme Bernardel, Chano, Villaume, qui s'en sont occupés, qui les ont remis au goût du jour et qui les ont prêtés aux plus grands interprètes. Donc, ils ont été joués par des gens tout à fait prestigieux, notamment un petit peu Pablo Casals dans le cadre du mien. Et après, évidemment, beaucoup de grands solistes. John Wang, notamment, l'a joué pour son intégrale des suites de Bach au Japon, mon violoncelle. Donc voilà, il a une petite histoire comme ça.
Adrien Frassombé, vous aimez à dire que le violoncelle est un instrument ancien, mais au service de toute la musique, oui. Même la musique contemporaine. Alors expliquez-nous et entraînez-nous vers le chemin des créations, des créateurs pour cet instrument en particulier.
Voilà, alors tout d'abord, c'est vrai que le violoncelle a une capacité énorme, c'est-à-dire il peut jouer aigu, il peut jouer grave. Donc les compositeurs du 19e s'y sont très vite intéressés, je parle de Brahms notamment, mais aussi Chopin, qui était vraiment très intéressé par cet instrument. Alors, au-delà de ça, après, il y a eu le 20e siècle, avec des gens qui se sont vraiment dynamité cet instrument, en commandant des œuvres aux plus grands compositeurs, notamment Rostropovitch, qui a beaucoup aidé à faire composer à Prokofiev, Shostakovich, des œuvres merveilleuses pour mon instrument. Et puis au-delà de ça, maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des compositeurs vivants et j'essaye de stimuler à la création pour cet instrument, notamment un ami compositeur, Thierry Machuel, qui m'a écrit des antiennes de solitude pour violoncelle seul. Voilà, donc ça, c'est pour moi très très important de montrer aussi que le violoncelle peut se suffire à lui-même, est un instrument qui a une telle réserve de puissance et de couleur qu'il peut être présenté tout seul. Et c'est pour ça que j'ai créé quelque chose que j'appelle un petit peu one man show, parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que je parle aussi au public. Je joue, je parle. Et ça crée une interaction finalement entre le public et le musicien. Ce qui est souvent le cas quand on discute avec les gens. Pourquoi vous ne venez pas dans des concerts ? Ah ben parce que le musicien, il a l'air d'un autre monde, il nous parle pas, il s'adresse pas à nous. Et je crois que c'est très important de communiquer avec le public et de les immerger dans notre monde aussi, parce que je pense qu'il y a besoin de tendre la main et de dire venez-y dans ce monde, il vous est ouvert. Voilà. Et donc le violoncelle permet ce rapprochement.
Alors justement, nous en venons à votre programme musical. Comment souhaitez-vous, au cours de toutes ces prochaines années, transmettre cet amour de la musique ? Je vois que vos partenaires sont les festivals, les saisons de concerts, les théâtres, les médias, télévision, radio, les écoles, l'université. Parlez-nous de ce programme musical, un peu tous azimuts.
Je me suis dit, il faut finalement rendre ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire pouvoir aller à la rencontre des gens qui ne seraient pas allés nécessairement dans un concert. Alors pour cela, j'ai eu des propositions diverses et variés, et notamment la région de la Savoie, avec qui j'entreprends un programme musical qui va être justement d'aller jouer dans des écoles, dans des lycées, faire des concerts dans des tout petits villages, et aussi aller jouer dans des maisons de retraite, dans les conservatoires, former des jeunes, vraiment aller à la rencontre finalement des gens autour de projets ludiques pour les impliquer, pour les intéresser et aussi les faire rire. Parce qu'on oublie souvent que c'est important dans la musique de rire aussi, de faire rire le public. On l'oublie souvent cette émotion dans la musique classique, mais elle est là, elle est présente et il faut y penser aussi.
Musique sociale, musique humanitaire ?
Absolument, absolument. La musique qui transmet des valeurs positives, je pense, des valeurs de rassemblement. Et aussi un projet que j'ai, qui j'en profite pour lancer un appel aux gens intéressés. J'ai pu travailler à de nombreuses reprises avec des entreprises dans le cadre de séminaires. C'est-à-dire que pendant un séminaire très complexe, où il va y avoir plein de questionnements qui vont se poser, une très grande concentration, faire une petite pause musicale comme ça, avec un musicien qui va leur parler, qui va leur faire finalement créer une synergie comme ça dans le séminaire, où au lieu qu'il y ait des gens un petit peu divisés, qui vont chacun aller dans leur coin, on les rassemble et on crée quelque chose comme ça. Et donc je travaille aussi avec l'événementiel dans ce cadre-là, l'idée de rassembler les gens autour d'une valeur, toujours la même, l'émotion. L'émotion qui restera jusqu'à ce que l'humain disparaisse, je pense.
Adrien Frassonbet, merci d'avoir partagé ce temps de réflexion autour des micros de Canal Académie.
Mais merci beaucoup à vous, j'ai été ravi de ce moment.